vote pour la science avec Isabelle Burgoyne.
Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Les changements climatiques poussent nos municipalités à s'adapter rapidement face à de plus en plus d'événements météorologiques extrêmes. La multiplication de périodes de gel précoce, de vents violents ou encore de fortes inondations malmène nos infrastructures vieillissantes. On parle de routes, de ponts et d'édifices peu conçus pour résister à ces conditions devenues fréquentes et extrêmes aujourd'hui. Comme on a pu le voir avec différents événements, d'inondations notamment. En plus du bâti, il faut protéger les populations, les résidents, tout comme les écosystèmes et la faune. La construction de parcs éponges pour laisser par exemple circuler l'eau pour la végétation et faciliter l'assèchement plus rapide de l'environnement urbain. De la prévention aux techniques d'ingénierie, les aménagements aident à s'adapter et à améliorer la résilience des milieux de vie. Alors comment adapter les infrastructures municipales à l'urgence climatique ? Nous en parlons tout de suite, ne bougez pas. À Je vote pour la science aujourd'hui, nous voulons voir comment les municipalités se préparent aux urgences climatiques, face aux inondations principalement, mais peut-être même aux épisodes de verglas. Donc pour en parler aujourd'hui, je suis en compagnie de Catherine Perras, urbaniste et coordinatrice de l'aménagement du territoire et urbaniste chez Vivre en Ville, qui est un organisme à l'expertise diversifiée pour des collectivités viables, donc mobilité, urbanisme, accessibilité et lutte au changement climatique. Bonjour.
Bonjour.
Je suis aussi en compagnie de Juste Rajenson, professeur agrégé au département d'études urbaines et touristiques à l'UQAM, co-titulaire de la chaire de recherche ADAPT-UMQ sur les adaptations des infrastructures municipales au changement climatique de l'École de technologie supérieure. Bonjour.
Bonjour.
Il y a près d'un an, la ville de Longueuil dévoilait sa stratégie et son plan d'action de résilience aux fortes pluies. Il s'agit d'une approche plus globale où on parle de prévention, de gestion, d'atténuation afin de mieux protéger la population et l'environnement et les infrastructures municipales. Aménagement d'une place inondable, construction de bassins de rétention et rénovation du système d'égout municipal, différentes actions visent à transformer les infrastructures. Alors que nous venons de vivre récemment un épisode de verglas, le printemps est à nos portes et avec les embâcles et les inondations annuelles, c'est le temps de s'adapter, de trouver des solutions pour améliorer notre résilience au climat. Donc pour commencer, Madame Perras, quelles municipalités du Québec sont actuellement les plus vulnérables aux événements météorologiques extrêmes, particulièrement donc aux fortes inondations?
Dans le cas des inondations, d'abord, il faut comprendre qu'on a différents types d'inondations. Donc, les municipalités les plus exposées vont varier aussi selon le type. Donc, on va avoir, par exemple, comme vous l'avez nommé, des inondations pluviales lors des fortes pluies qui vont se produire, en fait, qui peuvent se produire dans à peu près n'importe quel milieu bâti, urbanisé, avec beaucoup de surface imperméable, donc beaucoup de surface de toit ou d'asphalte. Et principalement dans les secteurs de cuvette de ces milieux-là, donc des secteurs un peu plus bas dans la topographie. Puis ça, ça peut vraiment se produire dans beaucoup de milieux bâtis. Ensuite, on va avoir les inondations fluviales, donc plus débordements de cours d'eau, parfois causés par des embâcles de glace, comme vous l'avez dit. Donc là, encore une fois, il y a beaucoup de régions touchées. Si on pense aux inondations de 2019, c'était 300 municipalités à peu près au Québec, dans plusieurs régions. Ça va varier d'une année à l'autre selon l'alignement des facteurs là, qui vont mener à une crue plus importante. Puis on peut aussi connaître des épisodes de submersion côtière là, dans l'est du Québec, dans les régions plus côtières. Ça, c'est plus au niveau de l'exposition, mais il faut comprendre aussi que quand on parle de risque d'inondation, il faut combiner l'exposition avec la vulnérabilité. Donc, on peut être très exposé à une inondation, mais s'être adapté puis être moins vulnérable, ou encore, si on s'est pas adapté, bien là, on est très vulnérable. Donc c'est ça. Ça va varier selon les types d'inondations puis selon où on se trouve là, sur le territoire.
Oui. Rappelez-nous, c'est quoi le concept de risque d'inondation, justement?
Oui, justement, c'est un peu comme je viens de le dire, là, la fonction de ces deux éléments-là. Donc, l'exposition à l'événement, à quel point, par exemple, on se trouve dans une zone inondable à risque élevé. Donc, ça peut être au niveau de la fréquence de l'inondation, de la hauteur d'eau potentielle. Puis ensuite, on a la vulnérabilité. Donc, ça, c'est les facteurs plus intrinsèques à l'élément dont on parle. Ça peut être un quartier, ça peut être un bâtiment, ça peut être une personne, ça peut être une infrastructure. Donc, les facteurs propres à cet élément-là qui vont faire qu'il va être plus vulnérable qu'un autre. Là. Donc, quand on combine les deux, ben, on peut évaluer un niveau de risque.
Entendu. Professeur Hutchinson, comment les épisodes récents d'inondations au Québec ont changé la façon dont les municipalités planifient justement les infrastructures?
Oui, ben en fait, vous l'avez bien introduit avec le cas de Longueuil où on voit que les municipalités vont multiplier les actions. Donc, on va pas se limiter, par exemple, à seulement développer des ouvrages de protection, mais on va aussi développer d'autres types d'ouvrages pour s'adapter, pour construire différemment. Donc, on voit en fait un changement dans le mode de gestion. On passe d'un mode de gestion des risques où on cherche surtout à empêcher l'eau de rentrer, on va dire ça comme ça, à un mode de gestion de la résilience, c'est-à-dire on s'assure aussi de se préparer à comment on continue de fonctionner quand les épisodes de pluie, les précipitations arrivent également. Et ça, on le voit à trois niveaux. Donc, vous parlez tout à l'heure de la municipalité, donc au niveau des municipalités, on observe que celles qui ont été les plus touchées vont aussi être celles les plus proactives. On pense ici à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, par exemple, ou encore Gatineau, où on voit qu'il y a vraiment cette prise de conscience-là où il va falloir avoir un cocktail de mesures à mettre en place. On le voit aussi à l'échelle des regroupements municipaux, donc l'Union des municipalités du Québec, la Fédération québécoise des municipalités, où on voit aussi une prise de conscience de plus en plus grande. L'Union des municipalités du Québec, d'ailleurs, a réalisé une étude récemment pour estimer le coût, en fait, qu'est-ce que ça va coûter aux municipalités en termes d'infrastructures, et on se rend compte que la facture va être très salée là dans les prochaines années. Et donc, la chaire de recherche était d'ailleurs dans ce contexte-là, la mettre en place pour justement soutenir les municipalités pour essayer de trouver des solutions à ce niveau-là. Et enfin, une troisième échelle au niveau de la planification des infrastructures, c'est au niveau du gouvernement du Québec. Donc, on voit aussi apparaître un cadre beaucoup plus structuré, de nouvelles cartes d'inondation qui seront publiées progressivement à partir de 2026. En parallèle, Québec est en train de financer l'élaboration de plans climat pour les territoires municipaux. Donc ça veut dire quoi? C'est l'idée que chaque territoire analyse ses risques climatiques, inondations et autres facteurs et planifie des actions concrètes. Donc on va exiger finalement que les municipalités se préparent davantage. Donc on voit que la mobilisation, elle est vraiment à toutes les échelles, là, tant au niveau des municipalités que des regroupements municipaux que du gouvernement provincial. Donc on voit une mobilisation plus grande et une prise de conscience plus sérieuse du changement climatique.
Oui, c'est bienvenu. Madame Perras, quelles infrastructures sont les plus à risque? On pense au réseau d'égouts, peut-être des bâtiments publics.
Oui, ben encore une fois, ça va varier selon les milieux aussi, le type d'inondation. Effectivement, aqueduc, égouts, tout ce qui est infrastructure souterraine, notamment lors des fortes pluies, mais aussi lors des débordements de cours d'eau. Mais on peut aussi penser, par exemple, à des routes et des ponts qui peuvent être soit submergés ou parfois qui sont proches de l'être et qui doivent être fermés pendant les inondations. Puis ça a une cascade de conséquences où ça va venir parfois isoler des quartiers, même si ces quartiers-là sont pas nécessairement eux-mêmes inondés. Donc, beaucoup d'enjeux de sécurité publique avec ça. On peut penser aussi à des bâtiments publics qui peuvent être touchés, là, notamment, par exemple, le long de la rivière Chaudière, on a des hôtels de ville, des casernes de pompiers, des écoles primaires, toutes sortes d'infrastructures municipales ou plus provinciales là, qui peuvent être inondées à répétition. Puis, dans certains cas, il y a dû y avoir des réflexions à savoir si elles devraient être reconstruites ailleurs, par exemple. Donc, il y a vraiment... Ouais. Plusieurs types d'infrastructures.
Ouais. Ben surtout que certaines infrastructures, notamment les réseaux d'égouts, sont très vieux et des fois pas adaptées à la quantité de pluie là, qu'on peut avoir dans les événements extrêmes.
Oui, effectivement. Ben on remarque là, avec notamment les chiffres dont mon collègue vient de parler, que ça va coûter cher, entre autres parce qu'on a un certain déficit d'entretien de plusieurs types d'infrastructures. Mais oui, effectivement, c'est n'importe quelle infrastructure, par exemple souterraine, a été construite pour gérer une certaine quantité d'eau. C'est normal, toute infrastructure a une limite. Si on pense à une digue qui tente de protéger un milieu d'un cours d'eau, ben il y a une limite aussi. Puis lorsqu'on a des événements extrêmes, il y a toujours la possibilité que ça dépasse la capacité. Donc oui, parce que nos infrastructures sont vieilles, même des nouvelles infrastructures. qu'on construirait aujourd'hui, il y aurait toujours un risque supplémentaire qui pourrait se produire. Donc, il faut se préparer avec de multiples mesures, là, comme on le mentionnait.
Oui, professeur Hutchinson, puis aussi Madame Perras, est-ce qu'on continue à construire en zone à risque et inondable? Est-ce qu'on est bien conscient de tous ces risques-là? Peut-être professeur.
je dirais que présentement, donc aujourd'hui, 2026, mm-hmm. oui, mais avec des degrés variés. Et on voit aussi quand même un encadrement qui devient de plus en plus précis. Je vous parlais un petit peu plus tôt là de la nouvelle cartographie en cours de déploiement au Québec. Je crois que avec cet exercice qui est réalisé actuellement, on ne sera plus simplement dans une logique où une zone est autorisée ou interdite, mais il y aura plutôt différents niveaux de risque, faibles, moyens ou élevés, et ça va probablement entraîner des règles différentes selon les secteurs. Donc, évidemment, plus le risque est élevé, plus les contraintes vont augmenter. Peut-être un autre élément que je rajouterais aussi à ce niveau-là, c'est que les assurances évoluent aussi en parallèle. Mm-hmm. Donc, dans plusieurs secteurs, les coûts changent déjà et donc ça va probablement influencer de plus en plus les décisions de construction. Donc, au-delà du réglementaire, il y a aussi le coût de construction qui va être peut-être plus élevé et qui va nous amener à construire différemment ou déjà à ne plus construire dans certaines zones où les coûts vont certainement exploser.
Ouais.
Oui. Aussi, je crois que la question, c'est pas tant de savoir si où on construit, mais aussi comment on va construire. Là.
Mm-hmm. oui, les deux en fait. Hein.
C'est ça, oui.
Madame Perras, c'est ça, c'est important d'avoir une cartographie fiable des zones inondables. Hein.
Ben oui, tout à fait. Puis mon collègue l'a bien expliqué là, c'est ça. On commence à voir, on va avoir prochainement des nouvelles cartes avec des niveaux de risque comme ça, avec des règles différentes selon le niveau de risque. Puis il y a un autre élément important, c'est aussi de voir est-ce qu'on parle d'un quartier déjà existant ou là peut-être mm-hmm. qu'on voudrait optimiser nos infrastructures, construire à oui. cet endroit-là plutôt que de s'étaler sur des milieux naturels ou des terres agricoles, par exemple, versus, tu sais, je pense que tout le monde s'entend pour dire qu'on va pas urbaniser un milieu qui est à l'état naturel aujourd'hui, là, en zone inondable. Donc, c'est vraiment selon le niveau de risque, mais aussi selon où on se trouve sur le territoire, dans nos milieux bâtis, ou est-ce qu'on est dans un milieu naturel. Ça, c'est pour les zones inondables plus officielles, là, quand on parle de débordement de cours d'eau. Mais après, pour ce qui est des inondations pluviales en milieu urbain, mm-hmm. Là, c'est différent. On a certaines cartographies, mais c'est pas considéré comme des zones inondables officielles au sens de la définition que le gouvernement utilise. Et donc, puisque ces inondations-là peuvent se produire vraiment un peu n'importe où dans les secteurs mm-hmm. urbanisés, mais là, la question de vraiment comment construire est d'autant plus oui. importante. Là. Donc, est-ce qu'on continue de construire des sous-sols, par exemple? Il y aurait toutes sortes de façons mm-hmm. de construire autrement là, qui pourraient venir réduire quand même...
Oui, risque. Les dommages, oui. Mm-hmm. Oui, surtout qu'il y a beaucoup de villes qui ont des rivières souterraines, puis on a construit par-dessus. Professeur Hutchinson, justement, quelle solution d'ingénierie fonctionne le mieux? Est-ce qu'on parle de bassins de rétention, de digues, de rehaussement des routes dans le cas des inondations? Qu'est-ce qu'on fait?
Ben, je vais répondre aussi comme ma collègue. Ça dépend de ce qu'on cherche à faire.
Oui.
Ce qu'on peut, de façon générale, il y a au niveau des infrastructures spécifiquement, on a quatre grandes familles, on va dire, de
solutions.
La première, on en a parlé tout à l'heure, c'est protéger. Donc ça, c'est l'approche oui. où on empêche l'eau d'atteindre un secteur qui est déjà construit ou qu'on ne peut pas facilement déplacer. Donc là, c'est des ouvrages comme les digues, donc des barrières physiques qui empêchent l'eau de pénétrer. La deuxième famille de mesures, c'est s'adapter. Donc, comment adapter les infrastructures qui existent déjà? Donc, améliorer ce qui existe déjà, ce qui est déjà en place pour que ça résiste mieux. Donc là, on parle, par exemple, d'agrandir les réseaux d'égouts, de rehausser une route pour qu'elle reste praticable, même si le niveau de l'eau monte. La troisième famille, c'est construire différemment. Donc là, je pense qu'on l'a abordé aussi un petit peu. Peut-être qu'il faudrait davantage végétaliser, réduire certaines surfaces artificialisées ou asphaltées, donc créer des zones où l'eau peut s'infiltrer exactement naturellement. Et la quatrième famille, c'est aussi, puis ça c'est peut-être une solution moins intéressante politiquement, mais aussi réfléchir à comment éviter ou déplacer certains usages du territoire lorsque le risque devient trop important à long terme. Donc, c'est le débat justement. Ben, okay,
Donnez-nous un exemple de ça.
Ben, ça, c'est par exemple, on a parlé tout à l'heure des zones qui vont être cartographiées prochainement, qui seront à risque. Il va falloir déplacer des quartiers ou des usages qui existaient depuis 20, 30 ans, mais qu'il va falloir relocaliser.
Oui, déplacer, oui.
Exactement. Et ça, ben, les cartographies qu'on va voir déployées prochainement va peut-être nous donner une meilleure clarté à ce sujet-là.
Entendu. Madame Perras, il y a un nouveau cadre réglementaire du côté des inondations depuis le 1er mars dernier. Pouvez-vous nous le présenter?
Ben, on l'a déjà abordé un petit peu tout à l'heure, mais en fait, parce que c'est très lié avec les nouvelles cartes dont on parlait.
Oui.
mais effectivement, ça va être, on va parler de règles, par exemple, de construction qui vont s'appliquer selon les catégories là, de zones inondables. Il y a aussi tout un cadre qui vient encadrer la construction ou le maintien d'ouvrages de protection, comme les digues, par exemple. Donc, des règles là, par rapport à ce qu'on fait, à comment on entretient ce qu'on avait déjà, puis si jamais on veut en construire d'autres, ben il va y avoir des règles à respecter. Donc voilà, puis c'est je connais pas tout par cœur là, mais c'est vraiment des règles qui s'apparentent un peu en fait à un règlement de zonage qu'on pourrait avoir à l'échelle locale, puis là c'est vraiment à l'échelle du Québec. Puis c'est pour les zones inondables causées par des inondations en eau libre là.
Entendu.
Ça, ça va s'appliquer progressivement lorsque les nouvelles cartes vont entrer en vigueur.
Mm-hmm. Le 7 octobre dernier, s'est tenue la journée Défis climatiques innovants pour les infrastructures de demain à l'ETS. Il y avait des actrices et des acteurs des milieux municipaux, industriels, gouvernementaux et universitaires. Professeur Fred Jansson, quel est le rôle de la recherche pour soutenir les municipalités dans leur adaptation?
En fait, y a vraiment plusieurs volets qu'on a abordés aujourd'hui, et on voit l'importance en fait d'aller développer nos connaissances. On parlait tantôt de cartographie, donc mieux comprendre les zones exposées. On a parlé aussi des combinaisons de mesures à mettre en place. On peut se poser la question, quelle est la meilleure combinaison de mesures selon les risques observés? Donc là aussi, il y a des études ou des travaux pour enrichir nos connaissances, à savoir quel est le bon cocktail qui peut répondre à des enjeux spécifiques selon les territoires. Et enfin, puis c'est un peu là où nous, dans le cadre de la chaire, on travaille beaucoup, c'est le financement. Donc, on a parlé justement de factures salées, de nombreuses actions à entreprendre au cours des prochaines années. La grande question, c'est comment on va financer tout ça, parce que tout ça est prioritaire finalement. Voir aussi au niveau de, et là c'est plutôt pas nécessairement de la recherche technique et technologique, mais la recherche au niveau du financement, des modalités de financement, des approches de gestion, exactement.
Oui. On va en parler un petit peu de ce volet-là, mais c'était pour, en fait, beaucoup dans la réflexion. Il faut avoir des informations pour pouvoir avancer dans
Absolument.
La réflexion et l'adaptation, hein, si je comprends bien. Madame Perras, comment s'articule la collaboration entre les municipalités, les MRC, le gouvernement du Québec? Est-ce qu'il y a un palier plus stratégique en matière d'inondation quand on parle d'inondation?
Ben, je dirais que, en tout cas, à l'heure actuelle, tous les paliers jouent un rôle important, ont un rôle à jouer. Au niveau du gouvernement du Québec, en particulier pour les inondations par débordement de cours d'eau, il y a quand même une certaine fragmentation des responsabilités, là. Donc, on va avoir, par exemple, le ministère de l'Environnement qui s'occupe de, qui est responsable de la cartographie et de la réglementation dont on a parlé tout à l'heure. Mais d'un autre côté, il y a aussi le ministère des Affaires municipales qui, lui, vient donner les orientations à l'ensemble des municipalités du Québec par rapport à l'aménagement du territoire. On a des nouvelles orientations aussi depuis un peu plus d'un an, dont certaines qui demandent aux municipalités d'adapter les milieux de vie au changement climatique, d'optimiser les infrastructures. Ça vient vraiment cadrer là, ce que les municipalités peuvent faire en termes d'aménagement du territoire. Puis d'un autre côté, il y a aussi, par exemple, la sécurité publique, qui administre un programme d'aide financière aux sinistrés et qui a des impacts importants sur les milieux de vie, parce que c'est ça qui va déterminer dans bien des cas là, si une personne dont le bâtiment est sinistré, si elle va le reconstruire ou si elle va le démolir. Tout ça a des impacts majeurs. Puis après ça, au niveau, par exemple, des municipalités locales, ben, elles sont beaucoup propriétaires des infrastructures, elles sont en première ligne avec les sinistrés lorsqu'il y a une inondation. Puis c'est elles qui planifient l'aménagement de leur territoire, finalement, qui mettent en place des règlements d'urbanisme qui peuvent parfois être aller plus loin que ce que le gouvernement propose. Puis elles ont aussi des pouvoirs aussi d'être proactives, là, par exemple, d'acquérir des terrains pour renaturaliser certains secteurs, prendre des décisions, en fait, vraiment sur l'avenir de leur milieu de vie, notamment en prenant en compte leur exposition ou leur vulnérabilité face aux inondations. Donc, le rôle de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme qui est très important là-dedans aussi, là.
Oui, et c'est important que tout le monde se parle aussi. Professeur Ed Jansson, justement, alors, où trouver les ressources et comment mobiliser? Donc, les pistes pour trouver ces ressources-là, parce que ça coûte de l'argent.
Absolument. Peut-être pour revenir justement sur la collaboration entre municipalités, APC et Québec, c'est nécessaire cette collaboration-là, parce que on le voit déjà aujourd'hui avec les plans climat qui sont exigés par le gouvernement. Le gouvernement lui-même n'a pas toujours la capacité financière de financer l'ensemble de ces besoins manifestés par les municipalités. On sait aussi que du côté municipal, la marge de manœuvre est assez limitée parce que les revenus reposent encore largement sur la taxe foncière. Et donc, plus les besoins en infrastructure augmentent, plus les enjeux vont commencer à apparaître là. Donc, à mon avis, ça oblige une réflexion plus large sur les modèles de financement, parce qu'il n'y a pas un acteur territorial qui peut absorber
l'ensemble. Ouais.
Et donc, on peut imaginer, nous en fait, on fait un peu de revue de ce qui se fait dans d'autres pays, notamment en Norvège, où les territoires vont imaginer des outils financiers plus structurés. Ça peut être une logique de banque d'infrastructure, par exemple, qui pourrait financer des projets dédiés aux municipalités. Ça peut être des partenariats privés-publics, mais aussi comment le secteur privé peut davantage contribuer, parce que c'est quand même un citoyen corporatif.
Oui, comme les autres.
Absolument, puis qui bénéficie aussi de ces infrastructures-là. Donc, plus on a des infrastructures robustes, moins c'est des coûts pour ces acteurs-là. Donc, il y a peut-être aussi à réfléchir une contribution plus importante des secteurs qui bénéficient de ces infrastructures publiques-là.
C'est ce qu'on appelle de l'éco-fiscalité?
En partie, oui. L'éco-fiscalité est un des véhicules, absolument, mais une contribution aussi possible au niveau des secteurs publics, secteurs privés, pardon, notamment des grandes entreprises les entreprises minières ou des grandes entreprises
industrielles. Oui.
Absolument. Elles peuvent aussi contribuer, par exemple, en finançant certaines infrastructures. Évidemment, c'est très complexe, là, évidemment, quelle est la part de responsabilité de part et d'autre du privé et public. Mais c'est des choses auxquelles il va falloir réfléchir, puis trouver peut-être des façons innovantes aussi, là. Donc, au-delà de l'écofiscalité, élargir aussi les types de co-financement ou de collaboration pour gérer les nouveaux besoins en infrastructure.
Entendu. En mode solution, donc peut-être, Madame Perras, quelles sont les solutions du côté de l'urbanisme? Vous avez évoqué tout à l'heure éviter l'étalement urbain. Est-ce que...
Oui, tout à fait, ça en fait partie. Puis c'est lié à ce qui vient d'être dit aussi. Je pense, si on parlait du coût des infrastructures, puis en fait, un élément important en aménagement, en urbanisme, c'est de planifier à long terme, puis de se doter d'une vision d'avenir pour nos milieux de vie. Donc déjà, quand on sait, par exemple, qu'on veut absolument préserver un milieu en particulier, ou qu'il y en a un autre qu'on pourrait envisager de relocaliser, ben déjà, ça donne de la prévisibilité, puis on peut mieux planifier nos infrastructures dans le temps. C'est quelque chose qu'on a un peu de difficulté à faire jusqu'à maintenant. Là, par exemple, après les inondations de 2017-2019, il y a plusieurs municipalités qui se retrouvent avec des quartiers où il y a eu beaucoup de démolitions, mais on a encore une certaine proportion des bâtiments qui sont là. Donc, les municipalités se retrouvent à devoir entretenir, déneiger, maintenir des routes et tout ça, des infrastructures souterraines dans des quartiers où on a perdu des fois plus de la moitié des bâtiments. En plus d'avoir une pression supplémentaire, peut-être d'aménager des nouvelles infrastructures ailleurs pour compenser. Donc, on voit qu'on n'est pas encore tout à fait dans une vision claire de l'avenir de ces quartiers-là. Puis effectivement, vous avez nommé l'étalement urbain, mais je pense que si on revient aux racines un peu de plusieurs de nos problèmes en aménagement ou face au changement climatique, ça vient en partie de là, parce que ce mode d'urbanisation-là qui s'éparpille sur le territoire, ben ça a fait en sorte qu'on a construit beaucoup d'infrastructures à travers le temps, alors que dans certains cas, on aurait pu mieux optimiser celles qu'on avait. On a aussi perdu les milieux naturels parce qu'on les a détruits en les urbanisant, alors que ces milieux-là contribuent aussi à notre résilience face au changement climatique. Puis on s'est retrouvé avec des quartiers où on est fortement dépendant de l'automobile, puis c'est des déplacements au Québec qui sont la principale cause d'émissions de gaz à effet de serre et donc des changements climatiques. Donc, on voit que c'est un peu un cercle vicieux de tout ça. Donc, c'est ça, de venir conserver nos milieux naturels, optimiser les milieux qu'on a déjà, qui sont déjà bâtis, puis venir adapter ces milieux-là à travers les solutions qui ont été mentionnées. C'est ça, c'est vraiment de combiner des solutions à toutes ces échelles-là. Puis c'est ce qu'on fait beaucoup en aménagement du territoire, là, de regarder toutes les échelles puis de s'assurer que ce soit complémentaire.
Entendu. Professeur Hutchinson, pour terminer, comment prioriser ces adaptations? J'imagine qu'il n'y a pas une solution, c'est plus une combinaison de solutions.
Oui, définitivement, et ça revient un petit peu à ce qu'on discutait un petit peu plus tôt, là, l'idée de travailler aussi avec des équipes de recherche qui peuvent appuyer cette réflexion-là. Mon collègue Francis Marlot-Donnet de l'ETS, là, qui copilote la chaire de recherche avec moi, est spécialisé dans les analyses multicritères, par exemple. Donc, comment prendre des décisions sur la base d'un ensemble de critères relativement complexes. Et c'est important, en fait, de donner aussi cette possibilité-là, de soutenir les municipalités à ce niveau, parce que un des difficultés au niveau des municipalités, c'est aussi le manque de ressources et de compétences locales. Et c'est là que le soutien des équipes de recherche peuvent être pertinentes. Et c'est un peu là, nous, notre rôle de soutien, c'est de donner cette possibilité-là de réfléchir à ces combinaisons de solutions-là, parce qu'elles se calculent, elles s'analysent. Donc, il n'y a pas nécessairement de recette toute faite, mais c'est les ingrédients que nous, avec lesquels nous, on va pouvoir jouer et co-développer, bien entendu, avec les municipalités.
Donc, je vous remercie beaucoup. Donc, on était en compagnie de Juste Hutchinson, professeur agrégé au département d'études urbaines et touristiques de l'UQAM, co-titulaire de la chaire de recherche ADAPT-UMQ. J'imagine que c'est pour l'Union des municipalités du Québec sur l'adaptation des infrastructures municipales au changement climatique, donc à l'École de technologie supérieure. Et de Catherine Perras, urbaniste et coordinatrice de l'aménagement du territoire et urbanisme chez Vivre en Ville. Merci à tous les deux.
Merci beaucoup.
À vous.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vote pour la science. C'est une production de Science Presse avec Radio-VM. À la régie, Daniel Fortin. À la recherche, cette semaine, Fanny Robartcher. À la réalisation et le micro, Isabelle Burguin. Si vous avez aimé cette émission, partagez-la. Vous pouvez aussi nous suivre et suivre la page Je vote pour la science sur le site de Science Presse. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer une très belle semaine à notre antenne.
Jin Jiahua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique.